Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal local et régional.
L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, chargée de la lutte contre la pollution et la protection des milieux aquatiques, Nicolas Alban, directeur régional pour l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, était présent lors de l'inauguration des stations d'épuration de Blacé et Conilhasna. Puis Acte Foref, association d'aide aux demandeurs d'asile, réfugiés et exilés, à la rencontre de Gaëlle Gamblet, présidente de Act Foref. Et en conclusion, le street art, en compagnie de deux artistes graphistes lyonnais, Osru et Abyss to Fly. Calade, le journal. L'Afrique, poubelle des pays riches, par Armand Patou, TV5 Monde. Alors que certains pays africains peinent à gérer leurs déchets, ils en récupèrent aussi de l'étranger. L'Afrique, destination des exportations de déchets électroniques. Nous sommes de plus en plus nombreux sur notre planète et produisons de plus en plus de déchets. Chaque jour, la population mondiale augmente de plus de 200 000 personnes. Nous achetons de plus en plus d'objets, de gadgets, d'aliments ou produits suremballés, de téléphones, ordinateurs, appareils vite démodés qui ne sont pas réparés. Ces déchets sont jetés, traités, mais aussi parfois abandonnés dans la nature. En moyenne, une personne jette dans sa poubelle environ 1 kg de déchets par jour, soit 354 kg par an. Et en rajoutant tous les déchets des entreprises pour fabriquer nos objets, de l'agriculture, pour produire nos aliments, des activités de soins pour nous soigner, on produit 13,8 tonnes de déchets par an et par habitant. C'est le poids de deux éléphants. Depuis que la Chine a fermé ses portes et ses importations, la Malaisie ainsi que les Philippines renvoient des déchets plastiques et non recyclables à leurs envoyeurs. Ces pays d'Asie du Sud-Est refusent d'être la poubelle mondiale. Comment protéger notre environnement et ne pas le polluer ? Nous ne devons pas abandonner nos déchets dans la nature, sur le bord de la route, dans la mer, car ceux-ci ne se décomposent pas tout seuls et nous serions envahis par les déchets. Le verre met 5000 ans à se décomposer. Une bouteille en plastique, 1000 ans. Un sac en plastique, 450 ans. Un pneu, 100 ans. Une boîte de conserve, 50 ans. Un papier de bonbon, 5 ans. Un trognon de pomme, 1 à 3 mois. Et pour économiser les ressources naturelles afin que tout le monde puisse en profiter, nous devons réduire notre consommation, éviter de produire trop de déchets, les trier pour les traiter et les recycler. Le 7e continent de plastique, on le décrit comme une immense plaque de déchets évoluant dans le nord de l'océan Pacifique, de la taille d'un tiers des États-Unis ou de 6 fois la France. Aussitôt se forme à l'esprit l'image d'un gigantesque amas compact de sacs plastiques, bouteilles, filets et autres bidons. Berk. Je me souviens d'un temps où des jungles luxuriantes poussaient sur des terres et les animaux fantastiques vivaient hors du temps. Et puis, cela a changé. L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, chargée de la lutte contre la pollution et de la protection des milieux aquatiques, Nicolas Alban, directeur régional pour l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, était présent lors de l'inauguration des stations d'épuration de Blacé et Conilhasna. On l'écoute.
Alors l'agence de l'eau est un établissement qui accompagne les maîtres d'ouvrage, qui réparent l'environnement avec des opérations comme celle-là aujourd'hui. Et nous sommes un financeur. Donc nous apportons des financements à tous ces projets qui permettent de réparer l'environnement. Alors tout à fait, notre vocation, c'est vraiment d'intervenir là où on a un environnement dégradé. Dégradé par les activités humaines, alors que ce soit par des pollutions, par ce soit des prélèvements excessifs ou des dégradations de milieux naturels. Nous, Agence de l'eau, on va inciter les collectivités, les industriels, les agriculteurs à faire des travaux de réparation et on va les financer pour ça. Donc il y a tout type de travaux qu'on va financer, bien sûr les stations d'épuration, les réparations de fuites d'eau dans les réseaux, mais aussi la protection, la reconstruction de zones humides comme ici, ou la réparation des rivières avec des travaux dans les rivières.
Changement de cap pour l'office au bénéfice de la biodiversité.
Aujourd'hui, on a résolu un certain nombre de problèmes. Effectivement, la pollution des effluents domestiques ou des effluents industriels est aujourd'hui largement derrière nous. Par contre, on a encore de gros défis devant nous. Il reste la question des pesticides qui sont largement présents, notamment sur ce territoire, et qui sont un problème. On a bien sûr les prélèvements dans le milieu, les prélèvements d'eau, qui vont devenir de plus en plus impactants avec le changement climatique, et puis la biodiversité qui se dégrade et qu'il va falloir reconquérir, donc avec des aménagements, là encore, réparer ce qui a été cassé. Je vous donne un exemple, nous sommes accompagnateurs du marathon de la biodiversité de la communauté de communes Saône-Beaujolais, qui a massivement replanté des haies sur son territoire. Cette plantation de haies constitue une reconquête de la biodiversité, des espèces d'oiseaux, des espèces d'insectes, et on espère que ces haies vont permettre le retour de certaines espèces.
Perméabiliser les sols et optimiser la ressource en eau en milieu urbain.
Oui, alors ça c'est malheureusement une caractéristique du XXe siècle, c'est qu'on a considéré l'eau de pluie comme un déchet et on s'en débarrassait le plus vite possible. On faisait des fossés, des tuyaux, il fallait s'en débarrasser. Et puis on bitumait les surfaces. Aujourd'hui, on est exactement à faire l'inverse, il faut garder l'eau dans le sol, l'infiltrer, que ce soit en ville ou que ce soit dans les champs. En ville, il faut aménager l'espace urbain avec des espaces végétalisés qui vont permettre d'infiltrer l'eau. C'est un bonus pour tout le monde. C'est bénéfique pour l'eau, c'est bénéfique pour les habitants qui vont avoir des espaces végétalisés, et c'est bénéfique pour les gestionnaires de stations d'épuration qui vont faire des économies de traitement. Donc c'est typiquement le genre de solution où tout le monde est gagnant. Il faut juste les mettre en œuvre et c'est parfois un peu compliqué.
La végétalisation des zones urbaines, îlots de fraîcheur, est un sujet clivant. Il est nécessaire de veiller à prévenir les réticences.
Alors on y arrive toujours. Il est toujours possible de faire quelque chose. Ça, c'est aussi la nature nous offre des tas de solutions. Donc même dans les milieux très denses, hein, aujourd'hui on fait des tas de choses à Lyon, dans les agglomérations, où on arrive à végétaliser des rues pour infiltrer l'eau de pluie. Même quand le sol est peu perméable, on arrive à constituer des bassins ou à envoyer l'eau dans des endroits où c'est plus perméable, mais on y arrive toujours à faire des choses.
Et en conclusion, la question des impacts de l'utilisation de produits phytosanitaires.
Oui, c'est une question importante, hein. On continue aujourd'hui d'avoir un usage massif des pesticides et des intrants en agriculture notamment. Et malgré tous nos efforts, on voit que les ventes de produits ne baissent pas. Et ça se retrouve bien entendu dans nos rivières, dans nos nappes. Et ça reste un défi à relever avec les agriculteurs aujourd'hui. Il faut qu'on trouve des solutions pour se passer de ces pesticides ou au moins réduire leurs usages.
Les aides allouées par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse contribuent à la gestion des eaux usées, la protection des captages d'eau, la renaturation de cours d'eau dégradés, la protection de zones humides ou encore la réduction des rejets de produits toxiques. Acte Foref, association d'aide aux demandeurs d'asile, réfugiés et exilés, à la rencontre tout de suite de Gaëlle Gormelet. Elle est la présidente de l'association.
Il y a 7 ans maintenant, j'étais dans une période où j'étais plus en lien avec ce public, mais ça me manquait beaucoup. Et c'était aussi le moment où il y a eu la guerre qui a commencé en Syrie, et puis les réfugiés qui se sont mis à arriver sur les côtes grecques avec aucune ONG sur place, aucune personne pour les aider, si ce n'est les locaux qui avaient très très peu de moyens, et qui est donc une espèce de chaîne de solidarité internationale s'est mise en place avec des petites associations qui se sont créées à ce moment-là dans plein de pays d'Europe. Et c'est ce qu'on a fait nous aussi, on a monté une petite association et on a commencé à agir pour aider les réfugiés, surtout avec la Grèce et les camps qui malheureusement se sont créés aussi par la suite là-bas et qui étaient des endroits, et qui sont toujours des endroits très insalubres. C'est des camps de réfugiés qui s'apparentent un peu à des camps de concentration parfois, malheureusement. Et puis au fil du temps, on a développé l'action, on a fait un petit peu l'inverse de ce que font les associations. Souvent, elles commencent en local, en national et puis en international. Nous, on a commencé à l'international. Et puis ensuite, on a eu des demandes de la part de Calais, de Dunkerque, les camps de réfugiés là-bas. On a fait des envois de palettes, donc sur la Grèce, de dons de palettes sur la Grèce et puis sur les camps nationaux français de Calais et Dunkerque. Et ensuite, au fil du temps, on a beaucoup de personnes qui nous ont contactés pour de l'aide dans la région Rhône-Alpes. Et donc, à l'heure actuelle, on a 90 personnes en lien avec nous qui nous demandent de l'aide régulièrement tout au long de l'année. On a des hébergeurs, on a des cours de français, on fait de l'aide administrative, on fait des colis alimentaires, des colis vestimentaires. On en a beaucoup d'actions. En fait, c'est surtout de l'aide d'urgence, de première nécessité sur n'importe quel type de besoin, et à chaque demande on va essayer de voir si on peut y répondre.
Plus d'infos, acteforef.org. Et pour conclure cette édition, décrié hier, encensé aujourd'hui, le street art, un mode d'expression libre. L'art de rue ou l'art urbain, cet art qui colore les murs des villes du monde entier, trouve aujourd'hui sa place dans les galeries d'art, mais pas que. Osru et Abyss to Fly, deux artistes graphistes lyonnais, signent une fresque monumentale, route de la plage à Villefranche-sur-Saône. On vous invite à la découvrir.
Osru, parce qu'il y a un énorme travail des institutions, il y a beaucoup de musées qui suivent le pas, il y a une grosse production aussi de très nombreux artistes. Comme moi, j'ai commencé sur Lyon, on était 100. On se connaissait tous et maintenant on est peut-être 5000. Moi j'exagère un peu, c'est mon côté marseillais, mais voilà, il y a beaucoup de gens qu'on ne connaît pas, qui sortent d'école, qui sortent. Il y a beaucoup, toujours beaucoup d'autodidactes aussi, bien sûr, hein, heureusement. Mais voilà, c'est bien en fait. C'est bien parce qu'il y a de la place pour tout le monde, moi je pense. Mais...
Et cerise sur le gâteau, vous pouvez aussi en quelque sorte participer à l'éducation de ces petites jeunes têtes là qui peut-être auront le clic, pourquoi pas ?
Oui, ouais, bien sûr, bah, de toute façon la partie transmission ça fait partie de notre boulot d'artiste en fait, hein, quel que soit le domaine en fait, la musique, la peinture, c'est le même principe, hein, si on n'apprend pas aux autres, bah, soit ils apprennent mal et ils font n'importe quoi, soit ils apprennent pas et ils font pas, donc autant leur apprendre et... Et nous-mêmes choisir qui va nous suivre, quoi. C'est quand même mieux.
Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours dans la rue, en fait, sur des fresques murales, ou quand même, gros travail dans l'atelier, l'un et l'autre, d'ailleurs?
Alors, le travail en pleine rue, moi, perso, il se fait plutôt sur des commandes, maintenant, parce que, en fait, c'est beau, hein, la jeunesse et tout, on n'a pas besoin de payer un loyer, tout ça,
mais
machin.
Mais il faut courir vite.
Voilà, aussi, oui. Mais voilà, nous, on a des enfants.
On peut plus permettre de payer des amendes, d'aller en prison, ou je ne sais quoi.
Oui, ça se fait toujours, bien sûr, mais après, c'est vrai que moi, ça n'a jamais été tellement mon créneau. Moi, j'étais plutôt terrain vague, voilà, des coins plus cachés où on peut passer du temps sur une production, plutôt que le côté adrénaline qui, moi, m'a jamais trop intéressé.
Mais toujours comme Abyss, aussi de côté plus de l'environnement ou...
Alors, moi, j'ai beaucoup bossé autour de la ville, en fait. Ouais. Beaucoup d'immeubles, beaucoup d'inspiration urbaine, beaucoup de structures métalliques, beaucoup de choses peut-être plus humaines, enfin fabriquées par l'homme, en tout cas, que mon collègue Abyss, qui est plutôt sur les choses fabriquées par la terre, un peu plus, quand même.
Nature et technologie, ouais, en
ouais.
Fait.
Oui, sur
Et puis moi, j'ai dérivé aussi beaucoup sur la peinture abstraite en fait. Donc j'ai beaucoup de travaux autour de la mutation, la transformation d'une couleur à une autre, d'un geste, beaucoup de choses d'atelier en fait.
Où on vous trouve les expositions ? Qu'est-ce qu'elle est un peu votre actualité aujourd'hui ?
Eh ben, en termes d'actualité, on en a une en commun qui est au Musée des Tissus. On fait un rendu de résidence qui s'appelle Air de Famille. C'est un projet autour de l'économie circulaire. On est 25 artistes à avoir investi le Musée des Tissus, donc très, très gros projet.
Autour du upcycling, customisation d'objets et mis en scène dans des pièces du musée avec des univers différents.
Osru et Abyss to Fly, deux artistes graphistes, lyonnais, signe une fresque monumentale, route de la plage à Villefranche-sur-Saône. On vous invite à la découvrir.
Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.